Laudetur Jesus Christus.
Cinq jours que le pape est de retour à Sainte-Marthe. Il va mieux, nous dit la salle de presse du Saint-Siège. Les contacts extérieurs sont réduits au strict nécessaire, mais François reste attentif au monde. Il prie aujourd'hui pour les victimes du tremblement de terre en Birmanie, en Thaïlande. Un séisme de 7,7 sur l'échelle de Richter. Nous évoquerons la situation en particulier à Mandalay. Le Japon et la Corée du Sud inquiètent de l'augmentation des droits de douane américains dans le secteur automobile annoncé par Donald Trump. Comment y répondre? Alors que les constructeurs de ces deux pays représentent plus de 30% des importations américaines, c'est ce que nous verrons. Dans ce journal, nous irons au Liban. L'armée israélienne a bombardé la banlieue sud de Beyrouth ainsi que le sud du pays, signant la fin du cessez-le-feu signé il y a 4 mois avec le Hezbollah. Et puis ensuite, en France, l'Église invite à prier ce vendredi, 3e vendredi de carême pour les victimes des abus sexuels commis par les membres du clergé. Vous entendrez Monseigneur Lebrun, l'évêque du Rouen.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. L'état de santé du pape va en s'améliorant. Le soutien respiratoire a diminué le jour, mais aussi la nuit. La physiothérapie a fait ses preuves après un mois d'hospitalisation. François retrouve progressivement l'usage de la parole et de sa motricité. Il reste cependant au repos depuis son retour à Sainte-Marthe dimanche dernier. Il a participé à distance aujourd'hui à la prédication de carême et reçoit, outre le personnel médical, ses plus stricts collaborateurs. Le pape à Sainte-Marthe se tient informé. Il a ainsi fait envoyer 2 télégrammes ce vendredi, l'un destiné aux autorité civile et ecclésiale de Corée. François présente ses condoléances aux familles des victimes des pires incendies à avoir touché le pays. Dans le sud-est, 10 de feux seraient toujours en cours. Et l'autre télégramme concerne cette fois un territoire qui lui tient à cœur également et qui vient d'être frappé par un séisme de magnitude 7,7 sur l'échelle de Richter. Son épicentre se trouve au centre de la Birmanie, à Mandalay, dont l'agglomération compte plus de 2,5 millions d'habitants. De premières informations nous en parviennent, comme en témoigne Johanna Chardonneret d'Info Birmanie.
Beaucoup de lignes téléphoniques et internet, malheureusement, ont été endommagées par le séisme, donc il y a quand même peu de communication pour le moment. Mais il y a eu quand même des vidéos qui montrent l'ampleur des dégâts. Il y a des ponts qui sont effondrés, de nombreux bâtiments, des incendies ont éclaté dans la ville de Mandalay suite au séisme. Et par ailleurs, il y a beaucoup de questions sur la solidité des barrages hydroélectriques qu'il y a dans les environs de Mandalay. Sur l'est de Mandalay, vous avez les Tachan, avec des zones montagneuses, notamment vers Pioline, où il y a beaucoup de barrages. Donc heureusement, on est encore en saison relativement sèche. Mais il y a une vraie question sur la solidité des infrastructures à long terme, sachant qu'il y a eu plusieurs répliques du séisme dans la zone de Mandalay. Il y a un gros doute sur la solidité des infrastructures restantes. On commence à avoir de l'information au compte-gouttes qui sort de Mandalay avec de nombreuses personnes qui essayent de s'entraider et de sortir les survivants des décombres avec des moyens malheureusement très rudimentaires. Et en même temps, on voit de nombreuses vidéos devant les hôpitaux de personnes allongées à même le sol qui attendent de recevoir des soins et qui ne peuvent pas rentrer dans la structure de l'hôpital qui elle-même a été endommagée par le séisme. Naipido, il y a une partie qui s'est effondrée et Mandalay, les gens ont trop peur de rentrer dedans.
Johanna Chardonneret, à Mandalay, la minorité musulmane réunie pour la prière du vendredi en plein ramadan semble avoir payé un lourd tribut. Plusieurs églises catholiques y ont été également endommagées, notamment l'église Saint-Michel, l'église qui commence à se mobiliser comme la société civile. Quant à la junte militaire, elle sort de l'isolement après 4 ans de guerre civile. Elle demande à tout pays, toute organisation de venir porter du secours aux victimes, laissant présager le pire. L'Inde, l'Union européenne, l'Organisation mondiale de la santé se tiennent à disposition pour fournir de l'aide d'urgence. Et puis signalons donc que le séisme a également touché Bangkok, à 1000 km de l'épicentre. La secousse a provoqué des scènes de panique dans la capitale thaïlandaise. Un immeuble de 30 étages en construction s'est effondré. 3 personnes sont mortes. Il y a aussi 80 disparus. Au Proche-Orient, le fragile accord de cessez-le-feu conclu il y a seulement 4 mois entre Israël et Hezbollah semble avoir volé en éclats. L'armée israélienne a en effet bombardé la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, après avoir frappé plus tôt le sud du Liban en riposte à des tirs de roquettes vers son territoire. Des tirs qui ne seraient pas le fait du mouvement chiite, affirme le président libanais qui a commandité une enquête à Beyrouth, la correspondance de Paul Ralifé.
Le Hezbollah a rapidement réagi au tir de 2 roquettes à partir du sud du Liban, assurant qu'il n'était pas impliqué dans cet incident et réaffirmant son engagement à respecter le cessez-le-feu. À Paris, où il était en visite officielle, le président libanais Joseph Aoun a déclaré que tout indique que le Hezbollah n'est pas responsable des derniers tirs de roquettes. Le président Emmanuel Macron a abondé dans le même sens, déclarant que la France n'avait pas eu d'informations signalant des frappes du Hezbollah et des activités militaires au sud. L'armée libanaise a de son côté annoncé avoir localisé au nord du fleuve Litani la position d'où sont parties tôt le matin les deux roquettes tirées vers la Galilée. Elle a ajouté qu'Israël avait pris comme prétexte cet incident pour violer d'une manière flagrante la souveraineté du Liban et la sécurité de ses citoyens. Le premier ministre Nawaf Salam, qui avait qualifié les tirs de roquettes d'actes irresponsables, a condamné les frappes israéliennes contre des civils et des zones résidentielles où se trouvent des écoles et des universités. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Israël frappera partout au Liban contre toute menace. Ça fait savoir ce soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans un communiqué. Ces frappes viennent en tout cas percuter la première visite en Occident du président libanais Joseph Aoun, reçu à Paris pour célébrer l'amitié indéfectible avec la France et lui témoigner de sa volonté de réforme, des réformes institutionnelles et économiques nécessaires pour recevoir une aide internationale, aide nécessaire au redressement du pays. En Turquie, le pouvoir tente de museler le mouvement de contestation déclenché par l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, d'Istanbul, principal opposant au président Erdogan. Son avocat a été arrêté ce vendredi, puis relâché, une exception puisque depuis le 19 mars, le gouvernement turc affirme avoir interpellé près de 2000 personnes, 260 seraient au moins incarcérées, des manifestants mais aussi des journalistes étrangers également. Hier, le correspondant de la BBC a été expulsé. Le vice-président américain J.D. Vance vient d'atterrir au Groenland accompagné de sa femme. Il assistera à une inspection de chiens de traîneau, mais il vient surtout pour visiter la base aérienne de Pitufik que possèdent les États-Unis sur la côte nord-ouest de l'île, une île essentielle, a dit Donald Trump, à la sécurité américaine et même du monde. Donald Trump qui ne cache pas son intention de se l'approprier malgré les dénonciations notamment du Danemark et des locaux. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui dans ce contexte que le territoire autonome danois s'est doté d'un large gouvernement de coalition. 25% de droits de douane supplémentaires sur les voitures importées par les États-Unis et sur les pièces détachées dès la semaine prochaine. La décision de Donald Trump met le monde de l'automobile en ébullition et notamment les deux partenaires et allie de Washington, la Corée du Sud et le Japon, qui représentent respectivement 15 et 16% du total des importations automobiles des États-Unis. Conséquence, l'image d'autres constructeurs internationaux, les grandes marques japonaises et sud-coréennes ont subi de fortes baisses de leurs actions à la bourse. Philippe Dova.
Oui, le moins que l'on puisse dire, c'est que la pilule a du mal à passer, que ce soit au Japon, en Corée du Sud ou encore en Chine. Au Japon, où un emploi sur 10 est lié à l'industrie automobile et où les véhicules ont représenté 28% des exportations nippones vers les États-Unis en 2024, le Premier ministre Ishiba a mis en garde dès hier contre un impact significatif de cette mesure sur les relations économiques de son pays avec les États-Unis et sur le commerce mondial. Tokyo est en effet l'un des plus proches alliés économiques et stratégiques de Washington. Nous étudions une réponse appropriée. Nous sommes le premier pays en termes d'investissement aux États-Unis, a ainsi déclaré le chef du gouvernement. C'est une mesure extrêmement regrettable et nous exhortons le gouvernement américain d'en exclure le Japon, a par ailleurs déclaré son porte-parole. À Séoul, le ministre du Commerce et de l'Industrie a tenu une réunion d'urgence avec les principaux constructeurs automobiles et déclaré qu'un plan d'intervention d'urgence globale pour le secteur automobile serait annoncé en avril. D'ici là, le ministre sud-coréen devrait recevoir ce dimanche ses homologues nippons et chinois pour discuter de la coopération économique entre leurs pays. La dernière réunion tripartite de ce type remonte à 2020. Philippe Dova pour Radio Vatican.
À l'appel du pape François, les églises locales sont appelées à prier pour la mémoire et la mémoire des personnes victimes d'agressions sexuelles dans l'église. En France, c'est tous les vendredis, troisième vendredi de carême. Ce matin, dans la petite église d'Esteville, en Normandie, où est enterré l'abbé Pierre, Monseigneur Dominique Lebien, archevêque de Rouen, a célébré une messe. On l'écoute.
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est des personnes victimes. Si des actes ont été commis dans le passé, parfois dans un passé assez lointain, les conséquences sont actuelles. Et même malheureusement à venir, nous pouvons prévoir que des personnes qui ont été abusées sexuellement gravement dans leur enfance portent toute leur vie des traces. Et donc la question pour nous n'est pas seulement de faire mémoire des actes mauvais, mais surtout de faire mémoire chaque année de cette permanence des conséquences du péché. Mais nous sommes tournés vers l'avenir aussi pour la prévention, pour que cela ne se renouvelle jamais, pour que notre Église soit une maison sûre. Voilà. C'est un peu une nouvelle culture. Nous avons fait de grands, grands progrès, mais les progrès seront faits, j'ai envie de dire, le jour où je n'entendrai plus d'appel à l'aide, que nous n'entendrons plus quelqu'un nous dire « voilà, j'ai été abusé au sein de l'Église ».
Monseigneur Lebrun interrogé par Jean-Benoît Harel. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. L'actualité revient lundi. Un excellent week-end à tous.